Cet évangile de Marc nous parle de l'élection de 12. Il est intéressant de voir comment Jésus va les appeler par leur nom, chacun par son nom. Le nom est important dans la mentalité biblique. Le nom révèle l'identité même de la personne. C'est pour dire que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Si Dieu nous appelle par notre nom et qu'il nous désigne et qu'il nous propose une mission, eh bien c'est pour dire qu'il sait pourquoi il nous assigne cette mission-là. Il sait pourquoi il nous invite à prendre le chemin qu'il nous propose. Et si Dieu propose un chemin, c'est toujours pour notre épanouissement, c'est toujours pour notre bien. Voilà que parmi ses disciples, les gens qui le suivaient, qui étaient nombreux, il va en choisir 12 et il va les appeler par leur nom pour justement leur demander, dit le texte, de demeurer avec lui, pour être avec lui. Voilà pourquoi le Seigneur choisit les disciples, voilà pourquoi il nous choisit. Pour être avec lui, pour demeurer avec lui, vivre avec lui. Ce n'est pas d'abord pour réaliser des exploits, mais c'est pour vivre la relation d'amitié, la relation de fraternité, la relation de communion avec le Christ qui est notre Sauveur. Il y a une belle citation, une belle affirmation du pape Benoît XVI dans son encyclique Dieu est amour. En fait, certaines personnes aussi sont revenues là-dessus, où le pape dit en fait, le christianisme, la foi chrétienne, ne vient pas d'abord d'une affirmation éthique. Le christianisme ne vient pas d'une grande idée. Le christianisme consiste en la relation entre une âme et le Christ, un point, un trait. Donc c'est la relation avec Jésus qui fait que nous sommes ses disciples. C'est cette relation avec Jésus qui va transformer notre vie, qui va transformer notre être et qui va nous donner une nouvelle orientation. Donc, comme Jésus appelle ses disciples aujourd'hui, rappelons-nous qu'il le fait avec chacun, chacune d'entre nous. Il nous appelle par notre nom. Pourquoi ? Pour demeurer avec lui, pour passer le temps avec lui, pour se laisser transformer, pour se laisser habiter, pour se laisser aimer de lui. Mais maintenant, quand il appelle ses 12 pour demeurer avec lui, en même temps, il les envoie dans le monde pour évangéliser, pour chasser les mauvais esprits. Mais évangéliser, c'est quoi? C'est apporter la bonne nouvelle. Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle est-ce qu'on va apporter au monde? C'est la bonne nouvelle de la présence de Dieu, de cet amour infini de Dieu qui est toujours là malgré les trahisons, malgré les fermetures à gauche, à droite, des cœurs. Mais Dieu persiste à rester là, à offrir son amour. Et durant cette année jubilaire, où on nous rappelle la miséricorde inépuisable de Dieu. Jésus est le visage de la miséricorde de Dieu. Voilà la bonne nouvelle pour annoncer, rappeler au monde que Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il attend toujours, qu'il est prêt à recommencer, qu'il est prêt à refaire notre vie, à nous changer, à nous réorienter, qu'il ne détruit pas ce qu'il a créé, qu'il veut arriver à un épanouissement, il veut arriver à une transformation. Mais nous avons besoin de son aide. Voilà la bonne nouvelle que nous sommes appelés à annoncer. En écoutant David, qui pose un geste de bonté envers son ennemi à ce moment-là, le roi Saül, il ne le tue pas, il le respecte. L'annonce pour nous les chrétiens, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle justement de la miséricorde, du pardon. Que nous sommes appelés à annoncer le pardon de Dieu, à annoncer notre propre pardon et à le vivre tant qu'on le peut avec la grâce de Dieu. Ça, c'est cela la bonne nouvelle que nous sommes appelés à annoncer, nous les disciples de Jésus aujourd'hui. Alors que nous réfléchissons sur l'unité des chrétiens, certainement que tous les chrétiens, toutes les chrétiennes des diverses dénominations sont appelés aujourd'hui à recréer, à renouveler leur relation avec Jésus. Que tu sois orthodoxe, protestant, anglican, catholique, en fait, tu es appelé à entretenir une relation avec Jésus. Alors, c'est cette relation-là que nous devons entretenir avec lui, la rendre authentique. Mais en fait, c'est le Seigneur lui-même qui va nous aider à la rendre authentique. Et c'est dans le Seigneur que, petit à petit, on peut se retrouver. Et les anglicans, et les catholiques, et les orthodoxes, et les protestants. On doit essayer de revenir à la source, qui est notre Seigneur. Il y a cette belle affirmation du pape Jean-Paul II dans son encyclique sur l'écuménisme, où il dit, mais en fait, pour l'Église catholique, la voie de l'écuménisme est irréversible. On ne peut pas se mettre aujourd'hui debout et dire, ah, maintenant c'est fini, on ne fait plus de l'écuménisme, on fait autre chose. Impossible. D'ailleurs, la voie de l'écuménisme, à mon avis, c'est la voie de Dieu. Parce que Jésus a prié pour l'unité de ses disciples. Jésus a toujours voulu l'unité de ses disciples. Alors, c'est à nous, en fait, de nous tourner vers ce Jésus, de nous laisser transformer par lui, nous laisser guider par lui pour arriver à cette unité. Parce que finalement, l'unité, comme disent beaucoup de spirituels, et c'est vrai, ce n'est pas une affaire qui va naître de nos efforts à nous. Nos efforts montrent que nous sommes ouverts, mais en fait, ce sera la main de Dieu qui posera sur les différentes communautés chrétiennes pour reconstruire cette unité. Il y a le théologien Yves Congar qui a une belle image, parce que lui c'était un grand artisan de l'écuménisme. Lui il dit, l'écuménisme, l'unité, la demande de l'unité des chrétiens se fera, s'obtiendra à genoux, en prière, pas dans les spéculations, pas à genoux. On obtiendra la l'unité des chrétiens. Dans la messe d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de raviver en nous cette relation avec lui. Nous sommes ses disciples, mais aussi de faire de nous des artisans, artisanes de l'unité chrétienne. Amen.